je vous propose de prendre part à une sieste sonore et littéraire. Laissez-vous guider par le son de ma voix pour profiter de ce temps pour vous. Installez-vous dans un endroit calme. Ôtez vos chaussures. Allongez-vous confortablement sur un tapis. Et prenez le temps de bien déposer votre corps sur le sol. Ressentez le contact avec le tapis. Parcourez mentalement l'ensemble de votre corps. Sentez vos pieds se relâcher. Dénouez les articulations, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, la nuque. Sentez peser votre corps sur le sol et posez maintenant votre attention sur le souffle. Je vous invite à prendre conscience de l'air qui entre en vous et qui en ressort. La respiration. Un temps privilégié pour se connecter à soi-même, en profondeur. S'abandonner. Visualisez le souffle qui vous parcourt. Et observez les zones de votre corps qui respirent, qui se soulèvent et se rétractent légèrement à chaque inspiration et à chaque expiration. Votre corps est profondément amarré au sol. Laissez votre tête voyager. Errez à l'écoute de ces quelques lectures. Pour cette première lecture, je vous propose d'écouter un extrait du roman de Jules Verne, Les Indes Noires. Il nous plonge dans ce chapitre 3, dans les sous-sols du Royaume-Uni. Il est convenable pour l'intelligence de ce récit de rappeler en quelques mots quelle est l'origine de la houille. Pendant les époques géologiques, lorsque le sphéroïde terrestre était encore en voie de formation, une épaisse atmosphère l'entourait. Toute saturée de vapeur d'eau, et largement imprégné d'acide carbonique. Peu à peu, ces vapeurs se condensèrent en pluies diluviennes, qui tombèrent comme si elles eussent été projetées du goulot de quelques millions de milliards de bouteilles d'eau de Seltz. Le sol des continents, encore mal fixé, se couvrit donc de forêts immenses. L'acide carbonique, si propre au développement du règne végétal, abondait. Aussi les végétaux se développaient-ils sous la forme arborescente. Sans fruits, d'un aspect monotone, qui n'aurait pu suffire à la nourriture d'aucun être vivant. La terre n'était pas prête encore pour l'apparition du règne animal. Voici quelle était la composition de ces forêts antédiluviennes. La classe des cryptogames vasculaires y dominait. Les calamites, variété de prêles arborescentes, les lépidodendrons, sorte de lycopodes géants, hauts de 25 ou 30 mètres, larges d'un mètre à leur base, des astérophiles, des fougères, des sigillaires de proportions gigantesques, dont on a retrouvé des empreintes dans les mines de Saint-Étienne. Toute plante grandiose alors, auquel on ne reconnaîtrait d'analogue que parmi les plus humbles spécimens de la terre habitable. Telles étaient peu variées dans leur espèce, mais énormes dans leur développement, les végétaux qui composaient exclusivement les forêts de cette époque. Ces arbres noyaient alors leurs pieds dans une sorte d'immense lagune, rendue profondément humide par le mélange des eaux douces et des eaux marines. Ils s'assimilaient avidement le carbone qu'ils soutiraient peu à peu de l'atmosphère, encore impropre au fonctionnement de la vie, et on peut dire qu'ils étaient destinés à l'emmagasiner, sous forme de houille, dans les entrailles même du globe. Que se passa-t-il dans ce creuset gigantesque où s'accumulait la matière végétale enfoncée à des profondeurs variables? Une véritable opération chimique, une sorte de distillation. Tout le carbone que contenaient ces végétaux s'agglomérait, et peu à peu, la houille se formait sous la double influence d'une pression énorme et de la haute température que lui fournissaient les feux internes, si voisins d'elle à cette époque. Ainsi donc, un règne se substituait à l'autre dans cette lente mais irrésistible réaction. Le végétal se transformait en minéral. Toutes ces plantes qui avaient vécu de la vie végétative sous l'active sève des premiers jours se pétrifiaient. Écoutons le poète et mineur Jules Mousseron dans ce poème intitulé Lupic. Ce type de texte était lu lors de soirées organisées dans les cafés qu'on appelait les soirées bachiques. C'était l'occasion d'exprimer le métier, les souffrances des mineurs et la solidarité entre eux. Ulpic. Tape, pique, tape, corne du diable, t'la mets fin comme un pagnard, l'veine est dure, t'pointe est sûre, rentre dans le carbon comme un dard. Sous le gaillette, le gaz fourfette, il nous assiste, le grisou, n'y prends garde, quand t'es larde, l'air le chasse mauvais braillou. Hardi, pioche, plus d'un mioche, patenardeur à ras du pain, chez Pénip, même tes ripes, mais chez le saurait de chaque humain. Chut, un cri, un suppli. Courons vite, aide-main de secours, tout s'écroule, tout s'éboule, chez tes chies dans les alentours. Ah, courage, avec rage, bon pic, air doublon d'effort. Ah, victoire, vite à boire, el comrade n'est point mort. Voici maintenant un court extrait de l'autobiographie du Lensois, Augustin Viseux. Galibot à la Fosse Neuf, là où se trouve le Louvre-Lens aujourd'hui, mineur de fond, puis ingénieur en chef. Le 1er octobre 1913, mon père fut embauché comme il l'avait souhaité à la fosse 16 de Lens, sur le territoire de Losangoël, à la limite de Liévin. Le creusement de cette fosse avait commencé en 1909 et sa mise en extraction en 1912. Mais comme la construction proprement dite des cités n'était pas encore achevée, mes parents furent logés dans la cité près de la fosse 9, rue Jeanne d'Arc. Notre pavillon se composait au rez-de-chaussée de deux pièces et d'une cuisine. À l'étage, de deux chambres. Le jardin jouxtait le mur, haut de 3 mètres, de grès et de schiste montant jusqu'au niveau du carreau de la fosse 9. Triste vis-à-vis, gris et noir. Les fenêtres donnaient sur la rue. Comme en ce temps-là il y avait peu de voitures, en dehors du charretier de charbon et du laitier, la rue nous appartenait.